Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous abordons maintenant la deuxième partie de cette émission. Alors, nous avons un standard. Il y a Laurent, nous avons la chance d'avoir Laurent au téléphone. Donc n'hésitez pas surtout à appeler, à donner vos messages. Alors je prie de m'excuser auprès des auditeurs qui m'ont envoyé leur message en première partie. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de les lire vu la densité du sujet et le temps qui passait très vite. Donc ils veulent bien m'en excuser et que cela surtout ne vous empêche pas d'envoyer vos messages. Donc au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr. Et nous abordons donc maintenant la deuxième partie de cette émission. C'est un sujet très différent de celui de la première partie. Effectivement, nous allons voyager et dans le temps, dans l'espace aussi, même dans le cosmos, c'est dire. Nous vibrons tous aux exploits des astronautes et encore plus quand ils ont le charme d'un joli visage bien français comme celui de Sophie Adnaud. Bah, nous intéressons encore plus facilement aux exploits de ces personnes qui vont dans l'espace. Et puis l'espace aussi, c'est le rêve de Musk, hein, c'est cet entrepreneur américain qui rêve d'envoyer des terriens sur la planète Mars. Mais bon, cela semble encore un rêve, un projet assez lointain. Et d'ailleurs, la planète Mars, c'est encore un peu notre monde, hein. C'est une planète qui est voisine de la Terre à l'échelle des galaxies et du cosmos. L'exploration du cosmos, et pas forcément de l'espace, eh bien, est aussi source de découvertes extraordinaires, mais encore, comme le souligne notre invité ce soir, regarder le ciel amène à se poser des questions fondamentales. Parce que nous recevons ce soir quelqu'un qui a passé sa vie professionnelle à observer le ciel. Et bien entendu, nous lui demandons quelques explications sur ces questions fondamentales. Je vous propose en effet, chers auditeurs de Radio Courtoisie, ce soir de consacrer cette émission à l'exploration, notamment du cosmos, et ce grâce à un merveilleux livre de souvenirs. Alors c'est un livre de souvenirs d'un astronome, c'est plein d'humour et de fantaisie. On n'imaginait pas effectivement un astronome avoir autant d'humour et de fantaisie. On s'imaginait des gens très très sérieux, mais c'est quand même quelqu'un de très sérieux dans son domaine, ceci dit, que nous recevons ce soir. Et ce livre s'intitule « Vecena au Chili ». Ça parle d'astronomie, ça parle pas que d'astronomie, parce que ça parle de voyage, ça parle beaucoup de relations humaines. C'est un livre donc passionnant. Et puis, je vous l'ai dit, qui est parfois très drôle, parce que Patrice Bouchet, eh bien, a commencé sa carrière d'astronaute. D'astronome, oui. Tu dis astronaute, moi ? Oui. Oh là là, non, mais c'est parce que je suis un peu grippé. C'est astronome, bien entendu. Les auditeurs ont traduit, monsieur Bouchet. Sa carrière d'astronome, donc, au Chili. Et au Chili, sous la dictature de Pinochet. Ce qui a donné, donne à son livre d'ailleurs un caractère historique, si l'on peut dire, en tout cas étonnant et aussi parfois savoureux. Alors ce livre, il le publie, Patrice Bouchet, donc aux éditions des Trois Colonnes. Nous allons donc évoquer en sa compagnie ce soir son aventure chilienne. Alors que faisait-il au Chili? Eh bien tout simplement, il a été envoyé dans un des observatoires pour l'époque, hein. Nous sommes au tout début des années 78-80, je crois, de mémoire, hein, à peu près.
76.
Bon, c'était hier. 76-78. Ouais. Les observatoires les plus puissants et modernes du monde, à l'époque. Et il évoque aussi l'expérience aventureuse dépaysante d'un tout jeune coopérant, au temps, justement, de Pinochet. Ça n'existe plus, les coopérants. Le service militaire n'existant plus. Les coopérants n'existent plus par voie de conséquence.
Oui.
Comme vous êtes fils de militaire, vous allez nous parler un peu de tout ça. Bien sûr, Patrice Bouchet, vous êtes un fils d'officier, officier de marine, c'est pas rien. D'ailleurs, on ressent dans votre livre un peu la morgue de la marine vis-à-vis de l'armée de terre. Hein. Vous écrivez que quand on a raté Naval, on fait Saint-Cyr, en quelque sorte.
Moi qui suis Saint-Cyrien,
ça m'a profondément heurté. Mais c'est pas très grave.
Je vous prie
d'excuser.
Je vous prie d'excuser, c'est pas du tout ce que je voulais dire.
Je vous
texte. Bon, il est un fait pour tous les gens qui sont en classe préparatoire.
C'est une taquinerie, Patrice Bouchet. Vous allez nous parler de votre parcours de jeunesse qui est très intéressant parce que.
Mais enfin, je n'ai absolument rien contre Saint-Cyr. Que les choses soient claires, j'admire beaucoup nos Saint-Cyriens.
Tous les Saint-Cyriens qui nous écoutent apprécieront vos commentaires. En tout cas, vous allez parler, bien sûr, aussi, vous l'évoquez, c'est passionnant, votre jeunesse. Est-ce qui vous a amené, dans une famille plutôt de tradition militaire, à devenir astronome avec une brillante carrière, nous allons le voir. Alors, dans ce livre, vous décrivez le charme de l'observation des étoiles, mais aussi d'étoiles brillantes qui ne sont, elles, pas dans le ciel, mais bien sur Terre et sur la Terre chilienne, parce que vous agrémentez, alors je ne sais pas quelle est la part romancée dans ce que vous racontez sur la jeunesse, la brillante et jolie jeunesse chilienne, notamment les enfants de ceux qui sont au pouvoir.
Alors là,
vous avez eu l'occasion de rencontrer les filles Pinochet, ça n'est quand même pas rien, et de danser avec elles, je crois.
Entre autres, oui. Mais,
vous n'avez pas honte.
C'est une des parties qui n'est absolument pas romancée.
Et justement, c'est pas cette partie-là qui est romancée, parce que vous écrivez au début de la durée qu'il y a une petite... Vous avez un peu romancé vos souvenirs. Alors, bon, on se dit, tout ce qui touche, vous êtes jeune à l'époque, tout jeune.
Bon, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai romancé, c'est que, en fait, ce n'est pas mon père qui m'a mis à la porte de...
Ah ben c'est ça, je voulais vous poser la question, comment on peut imaginer ça?
J'avais mon alter ego, mon labo ici à moi, mais bien qu'on ne réfléchissait pas beaucoup, on faisait beaucoup les imbéciles, à qui c'est arrivé. Et ça l'a beaucoup marqué, et j'étais présent quand ça est arrivé. Donc, je voulais raconter cette histoire, mais...
Autrement.
C'est-à-dire que, bon, c'était plus rigolo de dire que c'était moi. Mais en fait, ça, c'est pas moi. L'autre chose qui n'est pas romancée, mais là, j'ai pas pu le faire pour des raisons que vous comprendrez aisément... Je parle beaucoup de l'amiral Carvajal, et en fait, ce n'était pas un camarade de chambre de mon père, sinon de mon oncle. Voilà. C'est mon oncle qui m'a donné le...
C'est votre oncle qui est amiral
Oui.
Au Chili?
Ah non.
C'est
mon oncle qui était sur la Jeanne.
Qui n'était pas votre père.
Qui était sur la Jeanne. Alors, mon père était sur la Jeanne aussi. Mais il n'avait pas comme camarade de chambre le...
Parce que le frère de votre père est aussi officier de marine à Naval.
Oui.
Vous êtes vraiment une famille de tradition marine.
Enfin, du côté paternel. Du côté maternel, c'est tous des avocats.
Votre mère était très contente d'ailleurs que vous quittiez Naval. Mais nous allons en parler, en effet.
Oui.
Mais alors, c'est extraordinaire, parce qu'on est très jaloux de vous, de vos succès auprès de la belle jeunesse chilienne que vous découvrez sous des atours magnifiques. Hein. Et pourtant, quand même, il y a 1976, donc il y a quand même pas mal d'années, mais visiblement, vous avez été très sensible au charme de ces belles personnes. Mais nous allons bien sûr en parler, parce que vous avez cédé à ce charme. À deux reprises, hein. Visiblement, malgré les alertes qui vous ont été faites par le secrétaire d'ambassade. Méfiez-vous des Chiliennes. Ça, vous avez fait vraiment, vous avez assimilé ce qu'ils vous disaient. Hein.
Oui, tout à fait.
Vous avez épousé deux Chiliennes.
Tout à fait.
On va étudier. Alors, c'est vrai que c'est savoureux, c'est très savoureux, ce que vous racontez, mais ça nous amène aussi à l'intérêt de votre livre, au-delà de cette période de quelques années, donc... En tant que VSNA au Chili, parce qu'après, vous avez rejoint le Chili, le même observatoire, pendant de nombreuses années, dans une vie professionnelle.
Presque monacale.
Presque monacale, oui. Pourtant, comme monacale, on a du mal à croire quand on lit votre livre. Hein, ceci dit, vous allez nous expliquer tout ça. Et ça nous amène à nous intéresser, effectivement, à l'astronomie et l'observation du cosmos et des étoiles, parce que, justement, vous êtes un acteur vraiment important de ce domaine. Donc, nous allons parler de votre livre, mais j'aimerais aussi ce soir vous poser un peu quelques questions sur l'astronomie. Si vous voulez bien, on a la chance d'avoir un grand spécialiste avec nous ce soir, chers auditeurs de Radio Courtoisie, dans ce studio, Patrice Bouchet. Donc, je vous présente. C'est la première fois que vous venez à la radio ?
Ah oui, oui.
Bon, bah, je suis ravi. Je suis ravi voilà, de cette inauguration, en quelque sorte. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Il y a certainement beaucoup de choses à raconter en matière d'astronomie.
En tout cas, je vous remercie d'avoir, d'avoir lu mon livre.
Ah, bah, non,
ça me fait plaisir.
Je l'ai lu vraiment, je l'ai dévoré. Je l'ai lu avec énormément de plaisir. Puis ça m'a ouvert des tas d'horizons. Alors, je vous présente quand même aux auditeurs, bien que vous ayez commencé un peu à le faire. Vous êtes donc astrophysicien. Vous avez une grande réputation dans ce domaine, puisque vous êtes le co-découvreur des anneaux de Neptune.
Oui.
À l'observatoire de La Silla, donc celui qui est au Chili, dont nous allons bien sûr parler ce soir. Vous nous direz ce que c'est que ces fameux anneaux de Neptune et en quoi, effectivement, leur découverte a eu des conséquences sur l'astronomie, puis des conséquences pour nous, peut-être aussi, qu'on ignore. Voilà. Et puis, vous êtes aussi très reconnu pour les observations infrarouges de la supernova, le grand nuage de Magellan. Ça fait rêver, le grand nuage de Magellan, mais aussi le petit nuage de Magellan. On attendra toutes vos explications aussi en la matière, surtout l'observation infrarouge, c'est le domaine dans lequel vous allez d'abord vous spécialiser, suite à ce séjour, justement, ce premier séjour au Chili. Et puis, vous avez d'ailleurs reçu de nombreux prix et distinctions par les agences spatiales pour votre contribution, notamment au James Webb Space Telescope, le télescope James Webb, auquel vous aussi a très activement participé. Alors, si on attendra aussi vos explications de ce dont il s'agit. Et alors, ce sont des distinctions anglo-saxonnes, donc je ne vais pas les lire. Hein, mais...
Non, pas forcément, il y en a européennes. Mais
il y en a des européennes.
L'ESA, c'est européen. Oui. Mais la langue internationale, dans toute la recherche, pas uniquement en astrophysique et en astronomie, c'est l'anglais. Donc, tout est en anglais. Mais enfin, c'est pas...
Oui, c'est pour ça.
Oui. Oui.
Et puis, de toute façon, je précise aussi que vous êtes toujours directeur de recherche au CNRS, hein, je crois.
Non, directeur de recherche au CEA.
Au CEA, pardon.
Au département c'est d'astrophysique.
C'est un peu le pendant, non ?
Non, maintenant je suis à la retraite depuis très peu de temps. Oui, c'est le pendant, oui.
Oui.
C'est le pendant. Avec la différence, c'est qu'au CEA, on est tous ingénieurs-chercheurs. Alors je précise, je suis maintenant à la retraite, mais je suis conseiller scientifique du CEA. Donc, je suis encore en activité.
Oui.
Je me suis demandé toute ma vie, j'ouvrais ma fenêtre le matin en me disant, et en plus, on me paye pour faire ce que je fais. Maintenant que ça s'est arrêté, j'aimerais bien que ça reprenne, mais je continue à travailler au même rythme que quand j'étais à la retraite et aux mêmes endroits.
Vous êtes toujours passionné par ce que vous faites ?
Ah oui.
Alors, justement, c'est une question que j'aimerais vous poser parce que dans ce livre, VSNA au Chili, aux éditions Les Trois Colonnes, c'est aussi un aspect très intéressant de votre livre. Vous êtes à la fois, vous passez plusieurs semaines de suite dans cet observatoire qui est dans plein désert chilien, qui est à peu près 500 km de Santiago. Vous passez plusieurs semaines, puis vous revenez un peu à Santiago, puis vous retournez. Donc vous rencontrez beaucoup de monde. Il y a tous vos collègues. Et vous faites des descriptions savoureuses de vos collègues, et vous rencontrez des collègues de tout type, des types formidables, des types... qui s'intéressent plus aux filles qu'aux étoiles, ce sont vos propos, par exemple. Et puis, vous rencontrez des gens blasés aussi. Et vous dites à un moment, je vous fais le serment à vous-même, jamais, jamais, vous ne serez blasé. Vous ne voulez pas devenir blasé. Alors, la question que j'aimerais vous poser, et visiblement, ça vous concerne toujours, après des dizaines d'années d'astronomie, c'est quoi la recette ? Quand vous faites ce sermon, jamais je ne serai blasé. Vous voyez le spectacle de gens blasés dans un domaine pourtant très pointu. Et vous dites, jamais je ne serai blasé. Ouais. Il y a une recette pour ne pas être blasé ?
Moi, j'hésite un petit peu à répondre. Je dirais oui, il y a quand même une recette. Parce qu'on a beau être amoureux, que ce soit de son travail ou de quelqu'un d'autre. Tant qu'on a du succès, on n'a aucune raison d'être blasé. Quand j'ai dit du succès, c'est pas du tout les hochets qu'on vous distribue à droite et à gauche. C'est les soirées, les nuits dans une coupole que vous n'oublierez pas parce que vous avez vu tel ou tel objet, tel spectre qui est arrivé, tel, c'est ça le succès, c'est la satisfaction continue personnelle. Alors tant que vous avez ça, je ne vois pas comment on peut devenir désabusé. Mais il faut quand même la passion au départ. Alors, pour revenir un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, j'insiste sur le fait que ça a bien changé maintenant. L'époque, en 76, quand je suis arrivé à l'Observatoire du Chili, c'était vraiment, je dirais, le début de l'astronomie professionnelle. On avait recruté pour l'Observatoire européen des Américains, et même parmi les Français, il y en avait qui étaient là parce que, bon, un petit peu pour la beauté, c'était bien de regarder le ciel, mais ils n'avaient pas vraiment la passion. Alors que maintenant, pour avoir un poste aussi bien au CNRS qu'au CEA, il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment être passionné. Hein, donc c'est quand même bien différent. Maintenant, les astrophysiciens sont tous passionnés par ce qu'ils font. En 76, ce n'était pas forcément le cas.
C'est à cause d'une sélection plus importante, à cause...
Ben, aussi à cause du fait que... Bon, vous savez, l'astrophysique, ça a commencé en 1954 avec Évry Schatzmann, qui a créé la première chaire d'astrophysique à la Sorbonne. Donc c'est très récent. J'en parle dans mon livre. Quand j'ai dit à mon père que je voulais faire de l'astrophysique, il m'a dit « Oui, mon patou, c'est très bien, mais il faudra bien qu'un jour tu gagnes ta vie. » C'était pas connu. L'astronomie, on était très peu vraiment à faire des études. À Marseille, où j'ai fait mes certificats et mon DEA d'astrophysique, nous étions deux.
Tout en vendant des poissons sur le marché.
Tout en vendant des poissons sur le marché, parce qu'il fallait que je subvienne à certains de mes besoins. Mais bon, ça ne fait pas ça, c'est la vie d'étudiant, c'est normal. À l'époque, c'était normal. Pour revenir à la passion, quand vous voyez maintenant au CNRS, il y a 3 postes par an, quelque chose comme ça. Il y en a beaucoup qui font, vous savez, quand on fait de l'astrophysique, on regarde un petit peu les mouvements des plasmas dans le centre des étoiles, etc. Donc il y a toujours un débouché. À ma grande surprise, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont passé une thèse d'astrophysique et qui sont reconvertis dans le pétrole pour faire de l'hydro, l'hydrodynamique et ce genre de l'hydromécanique et tout ça. Donc les études d'astrophysique sont tellement poussées en physique qu'il y a toujours des débouchés. Mais dans l'astrophysique même, il y en a de moins en moins.
Quelle est la différence entre l'astrophysique et l'astronomie ?
Ah, ça c'est une bonne question, une excellente question selon la formule consacrée. Au départ, il n'y avait que des astronomes. Tout ce qu'on connaît, à commencer par Aristarque de Samos, 300 ans avant Jésus-Christ, mais surtout ce qu'on connaît, Copernic, Galilée, Tycho Brahe, Kepler, Newton, même Descartes et Pascal, c'était des astronomes dans le sens où ils ne s'intéressaient qu'au mouvement des astres, mouvement des planètes, mouvement des satellites de Jupiter pour Galilée. Je voudrais quand même signaler que on dit toujours que bon, c'est Copernic qui a démontré que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais l'inverse. Mais ça avait été fait aussi par Aristarque de Samos, c'est pour ça que je tenais à le mentionner. Donc tout ça, c'était l'astronomie pure. C'est vraiment ce qu'on appelle l'astronomie, c'est le mouvement des planètes, le mouvement le temps, la rotation de la Terre, etc. Et puis... Après tous les noms que je viens de citer, pendant 100 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'astronomes de la taille d'un Kepler ou d'un Newton. Et puis en 1787, von Fraunhofer, c'est un Allemand, a vu qu'en mettant de la lumière du soleil à travers un prisme, il voyait des raies en émission. Après Angelo Secchi, qui était un Italien, qui est arrivé 40 ans, quelque chose comme ça après, a montré que toutes les étoiles, que le Soleil était une étoile comme une autre. Alors je dirais que c'est ça vraiment le début de l'astrophysique. On a cessé de se préoccuper des mouvements des astres pour regarder vraiment comment ça marchait la machine, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur.
Il y a eu quelques développements, et puis je vous dis, pendant 100 ans, on a fait un petit peu, c'était à la fois de l'optique pour les spectrographes, pour voir un petit peu, au début, l'astrophysique, c'était uniquement des spectres, dans le domaine visible, on reconnaissait certains éléments qu'il y avait dans certaines étoiles, et voilà. Et puis, je vous dis, Avery Chasseman, qui était un astrophysicien extraordinaire, a créé la première chaire d'astrophysique en 1954, donc c'est très récent. Donc maintenant, on parle d'astrophysicien. Quand je me suis marié, la première fois, en 82, j'avais mis sur mon faire-part de mariage que j'étais astrophysicien. Tout le monde s'est moqué de moi, parce que ça faisait très pédant, très snob, très... Maintenant, tout le monde est astrophysicien. Bon. Maintenant, ce qui est snob, c'est d'être cosmologiste.
D'être quoi, d'être ?
D'être cosmologiste.
Quelle est la différence ?
La cosmologie, c'est vraiment c'est de la physique. C'est vraiment, il n'y a pas d'observation. On réfléchit. Einstein était un cosmologiste. Donc, il y a, vous savez, maintenant, dans l'astrophysique, il y a tellement de... Il y a autant de spécialités qu'en médecine.
Mais alors, quel est l'objet de l'astrophysique et de l'observation du cosmos? Qu'est-ce que ça... Concrètement, bien sûr, il y a toutes les découvertes, la compréhension, la voie lactée, le trou noir supermassif, les étoiles hyper géantes...
Non, ça, ce n'est pas des découvertes, c'est des catégorisations. Le but de l'astrophysique, alors, d'abord, on s'occupe des étoiles. Historiquement, d'accord. On a commencé par s'occuper des étoiles, savoir pourquoi elles brillaient, pourquoi elles restaient toujours... si vous avez une boule de gaz, quand on a su que c'était une boule de gaz... on se demande pourquoi elle reste quand même compacte. Si vous avez du gaz dans une pièce, et il s'étend un peu partout, il ne se forme pas une boule. Mais enfin, quand on a compris que la masse était tellement énorme que les forces de gravité elles-mêmes maintenaient tout ça bien rond, on avait fait déjà un grand progrès. Après, il a fallu savoir pourquoi elle brillait et combien de temps elle allait briller. Après, on s'est aperçu que... Ce qu'on appelait les nébuleuses du temps de Flammarion, en fait, c'était des galaxies comme la nôtre. Donc, il y avait énormément de galaxies. Et donc, on a commencé à étudier différentes galaxies qui n'ont pas toutes les mêmes formes, qui n'ont pas toutes les mêmes compositions. Après, on s'est rendu compte que dans l'espace interstellaire, il y avait des poussières, il y avait du gaz qui était séparé, mais énormément de poussières. On a commencé à étudier les poussières, mais là, les poussières, on ne les voit pas. Et il a fallu attendre l'infrarouge... Pour voir à travers les poussières. Enfin, pour voir les poussières à travers les barrières qui...
L'infrarouge, c'est une technique particulière qui permet justement de dissocier.
Ah oui, c'est une technique particulière. C'est une technique particulière. Pour comprendre un objet, il faut connaître son rayonnement de l'ultraviolet, même les rayons gamma, enfin de la région spectrale la plus énergétique, jusqu'à la radio en passant par l'infrarouge. Alors le problème de l'infrarouge pour observer l'infrarouge, c'est que il y a des barrières atmosphériques qui font qu'une grande partie de l'infrarouge ne passe pas, n'arrive pas sur la Terre. Donc il a fallu développer d'abord des manips spatiales et puis les rares parties qui arrivaient sur la Terre, il fallait pouvoir les identifier. Je veux dire par là que quand vous observez... le ciel est aussi brillant, on commence par ça, le ciel est aussi brillant en infrarouge pendant la journée que pendant la nuit. Il est extrêmement brillant. Et parce qu'on est à une température qui fait que l'infrarouge qui passe, il est à cette longueur d'onde. Donc il a fallu développer toute une technique pour... détecter une petite étincelle d'une allumette à travers un énorme feu de forêt, quoi, en quelque sorte. Donc, ça demande une technique un peu spéciale, et au début de ces techniques, c'était réputé comme... Enfin, au début, cette technique était réputée comme extrêmement difficile, et tout. Donc, il y avait très peu d'astronomes qui faisaient de l'infrarouge, et c'était vraiment très, très spécialisé. Alors que maintenant, c'est facile... Alors maintenant, il y a aussi un autre apport qui est fondamental. On en reviendra peut-être, j'espère, quand on parlera du JWST, si on en parle. C'est que maintenant, on envoie beaucoup de, de satellites et de, équipés de télescopes qui observent dans l'infrarouge, parce qu'une fois qu'on sort, de l'atmosphère, là, c'est, on n'a plus aucun problème, quoi.
Donc, les découvertes auxquelles vous avez participé ont été faites d'abord, enfin, c'est récemment, par des télescopes sur des satellites.
Non, pas forcément, parce que encore de l'avenir devant lui. Ah oui, 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 oui. Dans les fenêtres atmosphériques dans lesquelles les infrarouges passent, c'est-à-dire typiquement autour de 10 microns, qui est important parce que c'est une, il y a une signature des poussières qui est très importante. On observe encore pendant, depuis la Terre. Mais je vous dis, ça demande un système de hachage du ciel pour extraire vraiment le petit signal. Donc c'est assez compliqué, mais ça marche bien. Ça marche très bien.
Bon, de toute façon, vous allez nous commenter ça au cours de notre discussion sur votre livre de souvenirs VSNA au Chili que vous publiez donc aux éditions Les Trois Colonnes. Ce qui surprend Patrice Boucher, c'est que ce livre, vous le publiez maintenant. C'est un livre de souvenirs, donc vous l'avez précisé, 1976 et plus, puisque vous restez 2 ans comme VSNA, et après vous retournez à la CIA, cet européen, je crois. Hein, c'est d'extraterritorialité, d'ailleurs.
C'est une organisation internationale qui regroupe pratiquement maintenant tous les pays d'Europe. Au début, il y en avait 6, maintenant il y en a...
Elle est au Chili parce que c'est très pur à cet endroit-là.
Elle est au Chili pour deux raisons. D'abord, pour avoir des observations dans l'hémisphère austral.
Ah oui.
Hein, parce qu'on ne voit pas les mêmes objets selon l'hémisphère dans lequel on est. Et puis, elle est située dans le désert d'Atacama, à une altitude de 2800 mètres, où le ciel... Alors, il y a deux choses. Le ciel est magnifique, d'une pureté extraordinaire. Il faudrait monter à 6000 mètres pour avoir la même pureté du ciel. Et ça, c'est une chose. Et puis surtout, comme c'est un désert, comme son nom l'indique, la ville la plus proche est à 700 km. Donc, vous êtes pas, il n'y a pas de pollution lumineuse. Quoi.
C'est pas Paris.
Donc, c'est très, très important.
Alors, je reviens, du coup, vous nous expliquez pourquoi le Chili, mais je reviens, pourquoi ce livre de souvenirs maintenant?
Alors, pour beaucoup de choses. D'abord, parce que je ne pensais pas que ça intéresserait quelqu'un d'autre en dehors de mes enfants. Donc, il fallait qu'ils aient l'âge de lire, déjà. Ce qu'ils ne le font pas souvent, d'ailleurs. Mais bref. Et puis, c'est venu un petit peu, je dirais pas contraint et forcé, mais vous savez, la communauté française des astronomes professionnels, astronomiens et astrophysiciens français, est assez restreinte. Donc, quand vous êtes au travail, j'hésite toujours à parler de travail, quand vous êtes dans vos activités au réfectoire, à la cantine, vous avez tous les amis qui viennent et qui... même pas les amis, les gens qui sont venus à l'observatoire au Chili, parce que l'observatoire au Chili, c'est un observatoire de passage. Donc, il y a 8 astronomes du staff, 8 astronomes en permanence, mais c'est fait pour recevoir des astronomes de tous les pays d'Europe en mission. Donc, vous rencontrez énormément de gens. Puis après, 10 ans après, vous les voyez au réfectoire, à la cantine. Et ils vous disent « Ah, tu te souviens, ça et ça ?» Alors les gens qui sont à côté vous posent des questions, alors vous répondez, et puis de fil en aiguille, ils vous disent « Enfin, c'est passionnant ton truc, pourquoi tu ne l'écris pas ?» Donc voilà, alors ça c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis aussi, bon, le temps a passé, donc il a fallu d'une certaine manière que j'attende, encore une fois, vous m'excuserez l'expression, surtout l'emploi du mot « attendre », le décès de mon père, à l'occasion duquel j'ai retrouvé toutes notre correspondance.
Peut-être que vous avez écrit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mail.
Même les 6 premiers mois, il n'y avait qu'un téléx. Et puis, au bout de 6 mois, il y a le fax qui est arrivé. Alors, avec mes parents, nous échangeions toutes les semaines un fax où je racontais un peu ce que j'avais fait. Et voilà. Et donc, quand j'ai retrouvé tout ça, d'abord, ça ravivait un petit peu les souvenirs. Et puis, je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Mais honnêtement, je ne pensais pas que ça intéresserait quelqu'un d'autre que mes enfants et les amis proches, quoi.
Vous allez être obligé d'écrire la suite.
C'est ce que tout le monde me dit.
Exactement. La remarque que je vous fais, que vous en aurez le plaisir de vous recevoir.
La suite, il y a eu des trucs aussi. Il faut dire que, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la chance d'avoir une vie extraordinaire. Ça, je reconnais.
On le découvre, en tout cas pour ces deux, trois premières années au Chili, c'est très savoureux, en plus, comme je le précisais dans l'introduction. Vous aviez des carnets de notes de voyage?
Non, justement, c'était les lettres de ma petite sœur, qui est venue me voir plusieurs fois.
Virginie.
Virginie, voilà, c'est ça.
À qui vous faites un trajet extraordinaire en train, d'ailleurs.
Hein, oui.
Train type Orient Express.
Et puis surtout la visite et la nuit à l'observatoire. Oui. Et puis sa visite même. Non, c'est ma petite sœur chérie. Vous avez une petite sœur?
J'ai deux grandes sœurs.
Ah non, c'est pas pareil.
Le roi des neiges, tout ça.
Oui. Alors, que disions-nous?
Vous parlez de votre petite sœur Virginie.
là, je pourrais en parler des heures, mais ça n'intéresserait pas à grand-monde.
On passe à nouveau des pages très, très agréables à lire. Votre visite du Chili, justement, vous en parlerez certainement, qui semble être un pays magnifique.
Ah oui.
Vous avez des rencontres, vous parlez aussi du vignoble. Un chilien est bon, hein, d'ailleurs. Hein.
Ah oui, il y a
le vignoble, le fait qu'il n'ait pas été atteint par le phylloxéra, par exemple.
Ben non seulement ça, mais il n'a pas été atteint, mais c'est grâce quand même au vin chilien qu'on a pu replanter à Bordeaux. Ça, les gens ne le savent pas. Mais en fait, le vin de Bordeaux maintenant, c'est essentiellement du vin chilien.
Puisque tout a été dévasté.
Tout a été dévasté dans le Bordelais, et c'est le. Maintenant, ici, je peux dire que le vin chilien est extraordinaire. Mais quand j'étais au Chili, bien sûr, je leur disais que c'était pas mal, le vin français.
oui. Mais donc, vous nous expliquez en effet la genèse de ce livre, de ces souvenirs, publiés longtemps après qu'il se soit produit. J'aimerais quand même que vous reveniez, si vous le voulez bien, parce que ce sont des pages aussi très savoureuses, sur ce qui vous a amené à l'astronomie. Alors nous le disions, votre père ne voulait que vous fassiez naval, vous faites naval, vous rentrez à naval, mais vous êtes viré.
Non, ça c'est, je vous dis, c'est la partie romancée.
Vous n'avez pas fait naval?
Si, mais naval. Mais,
vous n'avez pas été viré, vous êtes parti de vous-même alors?
Oui, non, parce que j'avais des problèmes d'yeux, et... avec mes yeux, je ne pouvais pas être officier de pont, quoi, en fait. C'est ça.
Ah, c'est ça, c'était mécanicien, du coup.
Voilà, c'est ça.
Et vous ne saviez pas à l'entrée?
Non.
Ça ne
s'était pas vraiment détecté.
Donc, votre première vocation, c'est quand même la marine, alors, comme votre père.
Oui, mais j'ai toujours rêvé, quand j'étais petit, de mettre un télescope sur mon bateau.
Et conjuguer les deux vocations, voilà. Alors. C'est ça.
Je suis resté très voileux, hein, toute ma jeunesse. Et,
Vous avez quitté Laval à quel moment?
Tout de suite.
Dès le début?
Oui, dès le début.
Quand ils vous ont dit, le pont, non?
Oui.
Et votre père l'a mal pris, non?
Oui, non, il ne sait pas tellement que j'ai quitté qu'il a mal pris. C'est plutôt le fait que je suis allé en fac.
Après Laval?
Oui, parce que là,
vous avez fait un passage à Centrale aussi.
Oui.
Et vous quittez Centrale?
Pour aller en fac. Parce que
vous vouliez être astrophysicien,
oui,
déjà.
Absolument.
Et que vous savez qu'avec Centrale, ça ne passait pas.
Ah non. Et puis à Centrale, on s'emmerdait.
Vous croyez que c'est toujours le cas maintenant?
Écoute, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein.
Oui.
Ça dépend toujours ce qu'on veut faire. Ça a peut-être changé, mais moi, par exemple, le dessin industriel et tous ces trucs-là, ce n'est pas fait pour moi, quoi. Et puis, si j'ai vraiment hésité à un certain moment, c'était plutôt entre l'astrophysique en amateur et la philo en boulot, ou l'inverse, quoi. Quand j'ai commencé à faire de l'astrophysique, la philo m'a rattrapé, quoi. D'ailleurs, j'ai passé un bac philo, j'ai fait une première année de licence de philo en même temps, hein. Donc, quand j'étais en maths sup, j'ai passé le bac philo. Et ça s'est un petit peu éclairci, parce que la philo, c'est sensationnel quand vous êtes tout seul pour lire. Mais quand vous devez lire les bouquins, moi, que ce soit Fitelreau ou d'autres gens qui écrivent un peu pour le public, c'est assez incompréhensible. Et c'est très difficile à suivre. Donc, voilà.
Donc vous êtes devenu totalement astrophysicien.
Ah, totalement. Totalement.
Et quel était votre parcours pour arriver à l'ESA, donc
à l'ESO.
Les os, pardon.
Les as, c'est les astronautes. C'est la même chose que les os, mais pour l'astronautique.
Oui.
Donc pour ce qu'on en voit, mais enfin, Dame Sophie, elle est dans la banlieue, elle est à 600 km. Pour nous, ça ne nous intéresse pas, ça. 600 km, vous vous rendez compte, c'est juste à côté.
C'est
quoi.
Ça, oui.
Nous, on envoie les télescopes à 1,5 million de kilomètres, 4 fois plus loin que la Lune. Donc, bon, c'est très bien. Mais ils font pas de l'astronomie à la station internationale. Ils font des expériences de médecine, des expériences de plantes, ils font pousser des tas de trucs. Enfin, c'est pas des astronomes.
L'astronomie, là, 1,5 million de kilomètres, c'est très impressionnant. Est-ce qu'il y a des découvertes en astronomie qui ont changé notre vie, qui peuvent changer notre vie, par exemple?
Ah oui.
Pour illustrer un peu votre centre. Et puis on va revenir au Chili, comment vous arrivez au Chili.
Oui, attendez. Je cherche un petit peu. Non, on en reparlera peut-être tout à l'heure. J'aimerais bien en parler du JWST, qui est, parce qu'en ce moment, il se passe des tas de choses en astrophysique avec le lancement de ce télescope extraordinaire. J'aimerais bien en parler pour deux raisons. La première, c'est que la France a joué un rôle essentiel en construisant au CEA un des 4 instruments, qui est donc à 1,5 million de kilomètres maintenant. Et on parle toujours d'un succès de la NASA, mais enfin, on oublie que la France et le CNES, donc l'Agence nationale spatiale, a joué un rôle prépondérant dans la construction dans ce 4e instrument. Hein, donc ça, il faut le dire quand même, parce qu'on n'a pas tellement l'occasion de faire des cocoricos. Et moi qui suis, malgré mes séjours à l'étranger et avoir travaillé au Chili et pour les Américains et pour les Européens, je reste très français et j'aime bien qu'on reconnaisse le rôle de la France dans des choses qui sont aussi extraordinaires que celle-ci.
Alors qu'est-ce qui vous amène au Chili, justement ?
Ben, le Chili, c'est que, donc, je vous disais, j'ai eu la chance en maîtrise à Marseille d'avoir pour professeur un personnage éminent qui s'appelait Charles Fehrenbach, qui m'a pris d'affection, enfin, plus que de l'amitié. Vraiment, il m'a pris sous sa coupe, il m'a dit « bon, je vais m'occuper de vous ». Grâce à lui, donc, j'ai eu ma maîtrise, et puis après, il m'a dit « venez travailler avec moi à l'Observatoire de Haute-Provence, je vous apprendrai un peu le métier », parce qu'il était à la fois directeur de l'Observatoire de Marseille et de l'Observatoire de Haute-Provence, à Saint-Michel-l'Observatoire, à côté de Fort-Calquier. Et donc j'ai passé un an là-bas, et puis après il m'a dit « bon, maintenant, c'est pas évident d'avoir un poste, surtout que si vous voulez observer, mais j'ai un bon plan ». Parce qu'il était aussi directeur de tas de choses, et en particulier, il était membre du conseil de l'ESO, donc l'Observatoire européen. On a dit, on a négocié avec le gouvernement 2 postes de coopérants. Et donc, parce qu'à ce moment-là, lui, il parlait encore de coopérants, maintenant c'est très mal vu de parler de coopérants, on parle de VSNA, parce que volontaire du service national actif. Alors volontaires, ils ne sont pas tous, parce que quand le service militaire était encore obligatoire. Et actifs, ils ne le sont pas forcément tous non plus. Enfin, ça s'appelle volontaire du service national actif, VSNA. Mais avec les séjours militaires que j'avais eus, j'étais dispensé de service militaire. Donc ça a été vraiment une grosse frayeur pour moi, parce qu'il m'a dit « ne vous inquiétez pas, Patrice, je vais écrire au général, commandant, je ne sais pas quoi, la garnison de Rennes ». Oui, c'était la garnison de Rennes, les coopérants dépendaient de la garnison de Rennes. Pour lui dire que vous voulez quand même faire votre service militaire. Alors il a écrit une lettre dithyrambique en disant que je voulais servir à ma nation, etc. J'ai eu très très peur que le général, ému par mon sentiment patriotique, ne m'envoie dans les grenadiers voltigeurs en Allemagne. C'était pas du tout l'idée. Et puis finalement, bon, j'ai pu avoir ce poste, et donc je suis parti au Chili pour terminer ma thèse et faire mon service militaire.
Alors vous arrivez donc à Santiago de Chile, ce qui nous vaut quelques pages de description de la magnifique et mythique maison d'hôte, avec sa bouteille de champagne, et avec un petit chemin de travers sur une citation de Bernard Shaw. Je ne sais pas si ce sont vos études de philosophie qui vous ont fait découvrir Bernard Shaw. Vous le citez, alors je ne résiste pas à plaisir de citer ce que dit Bernard Shaw, c'est très savoureux sur justement l'économie. Le capitalisme est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le socialisme, c'est tout le contraire. Voilà, c'est sans doute après une bouteille de champagne ouais, à la maison d'hôte.
Non, mais la bouteille de champagne, elle était réservée uniquement au grand chef. Enfin, oui, et vous l'avez un
bu.
Grand chef.
Et vous l'avez
et
bu.
Je l'avais bu.
Mais... En cachette.
Pas vraiment en cachette, je l'ai trouvée là.
Elle était là et puis vous l'avez bu.
Elle était là, je ne savais pas qu'elle était réservée à M. Bachmann, qui était l'administrateur général, qui était bien un bon Allemand.
Vous faisiez déjà remarquer.
Oui, je me faisais déjà remarquer, oui. Mais pour revenir à la citation de Bernard Shaw, c'est parce que ça m'a toujours fait penser, dans le même ordre d'idée, c'est exactement la même chose, mais là, Bernard Shaw faisait de l'humour, le général Pinochet n'en faisait pas, quand il a déclaré « Je ne suis pas politique ni apolitique, mais tout le contraire ». Et ça, il l'a dit à la radio. Donc, je l'ai entendu, ça m'a marqué. Et puis après, j'ai lu ce truc de Bernard Shaw, j'ai dit bon...
Ça vous avez pensé à ça.
Ça m'a fait penser à ça.
Alors, vous partez, effectivement, pour l'observatoire de la Silla, qui est à 500 km au nord de Santiago, dans un petit avion qui s'écrasera, d'ailleurs, quelques mois plus tard.
Oui.
Un petit avion un peu brinque-ballant. Quelle description des lieux nous feriez-vous? Et puis, évoquer aussi le télescope 152, parce qu'il y a plusieurs télescopes. Hein.
Ah oui, oui.
Mais il y en a
oui.
un qui est très gros, qui est tout nouveau, et qui il s'appelle le télescope 152.
Non,
et vous écrivez
non, c'est le 3,60 m. Le 152, c'était l'ancien plus grand, avant le 3,60 m.
Alors, le 3,60 m, c'est arrivé, oui. il était déjà là
Un mois. Il avait été inauguré.
Vous écrivez, évoquez le télescope 152, parce que
C'est le jumeau de celui de l'observatoire de Haute-Provence.
Ah, c'est ça.
Ce sont exactement les deux mêmes. Et tout a été construit à la Réosque, qui est donc une entreprise française d'optique, qui fait des miroirs et des instruments à l'époque. Voilà, pour moi, ça. Et puis j'ai passé énormément de nuits à ce télescope.
Alors, quelle description vous nous feriez de cet environnement, de cet observatoire de la CIA, où vous allez passer nombreuses années.
Pour moi, c'était... Enfin, je ne sais pas à quoi ressemble le Graal, mais pour moi, c'était une découverte extraordinaire, une émotion. La première fois que je suis arrivé dans... Alors, pas dans les petites coupoles, parce qu'on avait j'avais déjà observé à l'observatoire de Haute-Provence, mais quand je suis arrivé à la grande coupole du 3,60 m, là, ça a été une émotion... alors ça, c'est côté instrument. Parce que bon, c'était vraiment le début des ordinateurs, il y avait déjà des endroits vides qui étaient prévus, tu vois, alors là on mettra une caméra, mais peut-être pour l'instant on n'en a pas, ça n'existe pas, bon, etc. Alors ça, c'est au point de vue instrument, c'était extraordinaire pour moi. Mais découvrir une ville, parce que l'observatoire de Saint-Michel en Haute-Provence, c'est quand même une petite ville, mais c'est une petite ville à côté de Saint-Michel, c'est pas la même chose. Tandis que sur cette montagne perdue, avoir une ville avec une petite polyclinique, des terrains de sport, un hôtel, un restaurant et tout, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas. C'est vraiment une petite ville, quoi. C'est comme, j'allais dire, c'est exactement comme si on est sur un porte-avions. Vous allez me dire que je reviens à la marine, mais oui, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à.
Un navire dans le désert.
Un navire dans le désert.
Parce que c'est le désert.
Ah, c'est le désert.
Désert que vous affectionnez d'ailleurs, vous aimez, vous y promenez seul.
J'aime le désert, oui.
Et vous avez beaucoup promené.
Ah oui, beaucoup, énormément.
Pourquoi vous aimez le désert?
J'aime le désert parce que c'est le seul endroit où on peut méditer. il faut être tranquille pour méditer. Alors attention, il y a plusieurs méditations, hein, il faut méditer. Hein. Beaucoup de gens méditent sur les choses tristes, la mort, etc. Non, il faut méditer sur la vie. Quand vous vous promenez dans le désert, d'abord, il y a une chose qui est drôle, enfin moi, qui m'a marqué, c'est que vous voyez un désert, il n'y a pas une végétation, il n'y a rien, vous ne voyez pas un animal, sauf sur la montagne, où là, il y a des ânes sauvages. Quand je dis sur la montagne, c'est à l'observatoire. Mais vous avez... Une vie, des tas de petits insectes, des tas de... C'est plein de villes, le désert. C'est extraordinaire. Et en plus, des couleurs qui sont peu reproducibles par les meilleurs peintres. C'est émouvant, quoi. C'est gigantesque. Vous ne voyez pas la fin. Vous marchez et vous voyez une grosse pierre. Je le dis une fois parce que c'est vrai que ça m'avait marqué. Vous asseyez sur cette pierre, puis vous vous mettez à penser qui s'est assis là il y a 100 ans, il y a 1000 ans.
ça reste encore une zone protégée de tout, quoi. C'est, non seulement c'est plein de vie, c'est magnifique, et puis, je sais pas, c'est propice vraiment à la méditation. Mais une méditation joyeuse, hein, pas une méditation ni mystique, c'est pas du tout mystique, c'est réfléchir un peu, même parfois sur le boulot. Mais pour ça, il faut marcher. On peut pas réfléchir vraiment assis. Enfin, moi, non. Moi, j'aime bien marcher pour réfléchir.
Vous décrivez un paquebot, un porte-avions, une ville dans le désert, en quelque sorte.
Oui.
Dans un environnement magnifique. Et dans cette ville, il y a beaucoup de monde. Il y a tous vos collègues. Et puis tous ceux qui soutiennent aussi, hein, tous les locaux. Ils soutiennent la vie sur place. Alors, votre livre, il y a quand même plusieurs descriptions très savoureuses, parfois élogieuses. Parfois moins élogieuses de vos collègues. Mais un mot sur ceux qui vous ont marqué dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on vit quand même en vase clos, ça ne va pas toujours être facile tous les jours. Vous restez plusieurs semaines ensemble, il y a des rotations en quelque sorte.
Oui. Alors il y a deux catégories, il y a trois catégories de personnel. Il y a le personnel technique. Alors quand je dis technique, ça comporte aussi les... la cuisine, les cuisiniers, parce qu'il y a un restaurant la nuit qui fonctionne, donc il faut des cuisiniers, il faut nourrir tout. Il y a en moyenne 180 personnes à la CIA en permanence. Hein. Donc vous avez les cuisiniers, vous avez les ingénieurs et les techniciens, aussi bien optiques, mécaniques, électriciens, parce qu'il faut, tout, il faut que tout fonctionne. Qui travaillent en général, ça se passe. Enfin, l'ambiance se passe très 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 bien. Puis vous avez le petit groupe des. Je parle de la CIA entre 76 et 78, hein, que les choses soient claires. Puis vous avez un petit groupe qui est complètement à part, qui est les astronomes. Alors dans les astronomes, bien sûr, il y en a qui sont géniaux, pas beaucoup. Puis il y en a qui sont moins, quoi. Donc j'ai pas essayé de régler des comptes. Hein. J'ai essayé simplement de montrer. Moi, j'arrive, j'ai 23 ans. Je m'attends à trouver des génies parce que l'astrophysique, l'observatoire le plus grand du monde à ce moment-là, hein. Même plus grand. C'était pas le télescope le plus grand parce qu'il y avait Kitt Peak qui faisait 4 mètres, mais au nombre le télescope c'était le plus grand. Donc c'était c'est vraiment le rêve, enfin pour moi, c'était le rêve de tout astronome. Et vous arrivez là, et puis vous voyez que y en a qui sont vraiment pas, enfin qui sont décevants, quoi. Puis vous en avez d'autres qui vous impressionnent parce qu'ils connaissent, parce qu'ils savent de quoi ils parlent, parce qu'ils ont du caractère, parce qu'ils ont. Puis il y en a d'autres, on a l'impression qu'ils sont là un petit peu. J'irai pas pour le folklore, parce que bon, ils travaillaient quand même, hein, mais. Léger, quoi. Enfin, je ne tuais pas au travail. Vous avez mentionné un qui était plus intéressé par les filles. Ce n'était pas forcément le plus bête. Hein. Il était... enfin, moi, je n'ai jamais trouvé... J'ai jamais eu vraiment une discussion scientifique avec lui. Mais des gens que je respecte beaucoup en ont eu. Donc, je fais confiance à ces gens-là. Mais effectivement, il était plus intéressé par la vie au Chili que par la vie sur la montagne.
Il y a le directeur général que vous rencontrez un jour, qui est le professeur Voltaire, avec qui vous entendez très bien, et qui va vous confier justement des recherches dans un domaine que vous ne connaissiez pas du tout, qui est l'infrarouge, c'est le début de votre carrière.
Ah ben c'est le début de l'infrarouge tout, aussi.
C'est ça, comme quoi une vie aussi se base, est orientée par les rencontres que l'on peut faire, et donc il va vous lancer sur ce domaine. Vous avez parlé de ce que c'était que l'infrarouge. Et après, j'aimerais bien qu'on aborde, après la petite pause que nous allons faire, une pause musicale, que nous abordions un peu le concret de votre travail, justement. Comment ça se passait? J'ai un certain nombre de vous, c'est dans le chapitre Luxe, Calme et Volupté. Vous expliquez, hein, comment vous travaillez là-bas, et puis les enjeux. Et je vous propose que nous fassions donc cette pause musicale. Après le message de la radio, nous lirons aussi après la pause des messages d'auditeurs. Qu'avez-vous choisi comme pause musicale, une pause musicale particulière?
J'ai pensé d'abord, Graham Allred, qui est un chanteur qui a mis beaucoup de musique de Leonard Cohen, mais étant donné que je me bagarre toujours pour qu'il n'y ait pas de chansons en anglais sur les ondes, on en a beaucoup trop. Donc Graham Allred est un chanteur néo-zélandais, mais qui chante en français, qui faisait du théâtre en français, qui s'est beaucoup occupé des enfants, en particulier près de Toulon, qui est un petit peu mon port d'attache. et qui a écrit une chanson qui s'appelle Petit garçon, que je chantais à mes enfants pour qu'ils s'endorment, que mes enfants chantent au leur, et que mes frères et sœurs chantent, et puis qu'on chantait en voiture quand on partait en famille. Donc, et puis alors dans le texte, il dit quelque chose que je trouve très beau, il dit « écoute les étoiles déjà », ce qui prouve qu'il a quand même un certain sens, et « entends-tu les étoiles tintinabulées ?» Je trouve que l'image est très jolie, quoi. Quand on regarde le ciel, surtout quand on est dans la nacelle, en l'air, la tête au milieu des étoiles, entendre une chanson qui dit « entends-tu les clochettes tintinabulées ?» Je trouve ça très beau. Donc je trouvais que c'était de circonstance.
Et nous écoutons Grémolouet, petit garçon, après le message de la radio.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Son manteau rouge et blanc sur un traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est là d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est là d'aller se coucher. Tes yeux se voient. Étoiles, tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est là d'aller se coucher. Eh oui.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir Patrice Boucher, qui est astrophysicien à l'occasion de la rédaction et la publication de son livre « Souvenirs sur les débuts de sa vie professionnelle au Chili, justement dans cet observatoire de la CIA qui appartient à l'ESO ». Et c'est publié, c'est très savoureux. Il y mêle à la fois, bien sûr, l'astronomie. Son travail, c'est ses recherches scientifiques, mais aussi l'observation à la fois de ce paquebot qui est l'observatoire de la CIA, l'observation des hommes, des comportements, c'est très savoureux. Et puis l'observation, bien sûr, de la société chilienne qui l'a rencontré. Il le raconte de manière très... vraiment... passionnante dans ce livre VSNA au Chili aux éditions Les Trois Colonnes. Alors Patrice Boucher, nous avons de nombreux messages d'auditeurs. Je vous les lis. Alors malheureusement, on ne pourra pas traiter de tous les sujets, mais c'est toujours comme ça. Hein? Donc, un auditeur, est-il vrai qu'il y a 100 à 10 000 fois plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur la Terre? Une autre question, comment les Grecs et les Romains connaissaient-ils la durée de révolution de Jupiter, 12 ans, et de Saturne, 30 ans? Comment un tel calcul est-il possible à l'échelle d'une vie humaine? En tout cas, Cicéron donne ces chiffres dans le songe de Scipion. On a des auditeurs qui sont vraiment très cultivés. Hein.
Ouais, alors j'ai pas compté le nombre de grains de sable. De grains de sable, ça dépend de quel désert, je pense.
Oui.
Dans le désert d'Atacama, il n'y a pas beaucoup de sable. En tout cas, il y a énormément d'étoiles. C'est pas là, des milliards d'étoiles, puisqu'il y a autant de galaxies. Dans chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles et il y a des milliards de galaxies. Donc on peut pas compter.
Et les Romains, ce que disaient les Romains là sur.
C'est très sujet, c'est vrai, cette histoire de Cicéron, mais c'est quand même sujet à caution. Maintenant, oui. Parce que la géométrie, d'abord, pour les Romains, hein, quand, même malgré les travaux précurseurs d'Aristarque de Samos, la Terre était encore au centre de l'univers et c'était le Soleil qui tournait autour. Hein, et il fallait pas, s'écarter de cette théorie. Donc, honnêtement, je crois pas beaucoup qu'ils avaient.
Incroyable.
Non. Mmh. Maintenant, bon, ça, ce qu'il y a, c'est que. Les planètes ont toujours été reconnues comme des planètes. D'ailleurs, c'est très facile de reconnaître une planète d'une étoile. Je dis aux auditeurs, c'est quand vous regardez le ciel, les choses, comme dit Graham Allwright, qui tintinabulent, qui scintillent, ce sont les étoiles, et celles qui sont fixes sont des planètes. Donc, c'est très simple. C'est l'atmosphère. Une étoile, même si avec le plus gros télescope du monde que vous pouvez imaginer, une étoile, ça restera toujours un point. Et donc ce point, quand il traverse l'atmosphère, le trajet optique change un petit peu, donc ça le fait scintiller pour vous. Et il se passe la même chose pour une planète, comme il y a beaucoup de points, ils scintillent tous, mais en moyenne, finalement, ça fait un disque dur. Quoi. Donc c'est comme ça. Donc
justement,
les Romains, ils regardaient les planètes. Donc le cycle des planètes, ça dépend par quoi on entend.
Comment procédiez-vous dans vos observations et dans vos recherches? Est-ce que c'est le fait du hasard? Vous alliez dans un endroit du cosmos comme ça et puis vous observiez. Comment ça se passe?
Vous l'évoquez
dans votre livre, Patrick.
Et
notamment comment vous répartissiez le travail avec.
Non, mais ça, c'est deux choses. Ça,
c'est toute comment... VSNA que vous avez haï.
Oui. Mais ça, c'est autre chose.
Vous avez choisi.
Quand on se répartissait le temps de travail, c'était avec mon ami VSNA belge. Mais là, on était obligés, on n'observait rien en particulier, je disais qu'on prenait des belles photos pour nos salons, et en général qui terminaient dans les cabinets de toilettes, mais c'était pour voir comment répondait le télescope selon l'élévation, selon la direction dans laquelle il regardait, la qualité des images, etc. Donc là, on allait un petit peu au hasard, on disait, là tu vas à 20 degrés au-dessus de l'horizon, tu vas à l'est, puis tu regardes comment se comportent les images, tu compares avec ce qui se passe à l'ouest, enfin voilà. Donc là, effectivement, c'était du hasard. Mais quand vous faites un programme d'observation, il n'y a pas de hasard, là. D'abord, c'est extrêmement difficile d'avoir du temps d'observation, parce qu'il y a finalement... l'Union astronomique internationale, en 2023, je crois, a comptabilisé quelque chose comme 18 000 astronomes dans le monde, dans 102 pays. Il y a d'ailleurs une chose assez rigolo, enfin, pas rigolo du tout, au contraire, c'est dramatique, c'est qu'il y a 18% de femmes, mais... pour 72% d'hommes. À l'époque, il n'y avait pas encore de LGBT ni rien, donc on reste là en catégorie hommes et femmes. En France, ça oscille entre, je dirais, environ 800. Il y a quand même plus de femmes en France. Même s'il y a 14 télescopes à la CIA, parce que l'observatoire d'Haute-Provence, on n'observe plus maintenant. La pollution lumineuse, les conditions climatiques, l'observatoire d'Haute-Provence, c'est un vieil observatoire. Qui est, bon. Pour observer dans un observatoire moderne, il faut que vous présentiez un projet, que vous sachiez ce que vous allez observer, et surtout pourquoi, et comment vous allez analyser les données. Parce que si vous dites, j'ai regardé cet objet qui me passionne pendant des heures, c'est pas une manière très, très utile de gaspiller l'argent du contribuable.
Mais alors, ce directeur qui vous confie ce projet sur l'infrarouge, que voulait-il que vous regardiez exactement?
Il ne se mêle pas de ma recherche, le directeur.
Il vous dit, c'est l'infrarouge, Mais alors vous, comment vous définissiez à la CIA votre objectif de travail?
Alors, le premier objectif, en ce qui concerne la mission donnée par ce directeur, qui était un personnage absolument extraordinaire, j'insiste, le professeur Volcher, qui a été président... directeur général de l'ESO et puis président de l'Union Astronomique Internationale, c'était de développer les techniques d'observation. Et puis une fois que la technique fonctionnait, ça c'était un petit peu le rôle des astronomes qui sont sur place, quoi, qui, de développer les instruments pour parfaire, pour parfaire les techniques d'observation. Mais après, ce que vous allez observer, votre programme scientifique, ça, personne ne s'en mêle. Moi, toute ma vie, si un matin, je me suis réveillé en me disant, bah, tiens, aujourd'hui, je vais étudier la reproduction dans le crabe bleu à l'ouest du Pacifique, personne ne va rien me dire, hein, je fais ce que je veux.
Oui.
Bon, ça, c'est la beauté, ouais, c'est ce qu'il y a de génial dans le boulot de chercheur, faites ce que vous voulez.
Parce que vous avez ça, cette liberté, vous aimez cette liberté.
Ah oui, oui.
C'est une des raisons pour lesquelles vous avez quitté Naval, d'ailleurs.
Oui, entre autres.
Vous l'écrivez, vous l'inventez, hein. Et vous êtes rétif.
Je suis rétif à l'autorité, sauf quand c'est moi le chef.
Mais ça, vous voulez quand même, l'observation, c'est aussi, c'était rude.
Oui.
L'observateur de la CIA,
ah, oui,
extrêmement
que...
froid là-haut.
Ah oui, oui. Oui. Ça, même en été, certaines nuits étaient très froides. Et alors maintenant, les petits jeunes, là, ils ne connaissent pas ça. Parce que maintenant, on observe depuis chez soi, pratiquement. Gilles Ouesté, moi, j'avais chez moi une console où j'avais les données. On ne va plus dans les coupoles, il n'y a plus d'oculaires, il n'y a plus de...
Il n'y a plus besoin d'aller dans les coupoles.
Non, maintenant, vous avez une caméra, vous regardez.
Puis,
vous...
Ah oui.
Mais attention, ça n'a pas perdu de sa beauté. Hein, mais ce n'est plus du tout les mêmes conditions. Quand vous avez posé pendant 2 heures... enfin, vous avez fait une exposition d'un objet pendant 2 heures et que petit à petit vous voyez votre image qui apparaît, qui défile sur l'écran et qui apparaît, l'émotion est la même que quand vous êtes l'œil à l'oculaire, hein, il ne faut pas se tromper. On n'a pas perdu en émotion, on a gagné quand même en confort. Parce que je me souviens de certaines nuits à la CIA, quand on était à l'intérieur de la coupole, où on mettait du papier journal entre nos différents pulls.
Quelle température là-haut?
En plein hiver, il peut faire moins 15.
Oui, quand même. C'est travailler,
ouais.
C'est pas...
Oui. Ah non, moi j'ai vu souvent l'antre des... Vous savez, on avait un enregistreur numérique, là, qui, justement graphique, pardon, qui défilait, et qui défilait le signal, et l'encre gelée.
Patrick, vous, j'ai encore beaucoup de sujets à traiter ensemble, de nombreux messages, cette fois-ci, je vais les lire. Alors, je poursuis. Réponse rapide, si c'est possible. Ouais. Parce qu'il va nous rester 22 minutes à peu près pour aborder d'autres sujets importants.
Ah oui.
Alors, un auditeur qui nous demande est-il possible encore, un astronome amateur, de faire des découvertes?
Oui.
Ah oui.
On va dire rapide, oui.
Oui.
On en a besoin, les amateurs.
Et ils peuvent faire des découvertes.
Ah bah oui, ils peuvent découvrir des comètes.
Oui, mais enfin, ils n'ont pas de télescope comme à la Scylla avec.
Ça dépend. Vous savez maintenant, avec les progrès de l'instrumentation, si une supernova aussi brillante que celle qu'on a observée en 87, mon petit bébé à moi, on ne pourrait plus l'observer dans les observatoires modernes, elle est trop brillante. Les étoiles les plus proches, les étoiles de notre galaxie, on ne peut pas les observer parce que nos télescopes sont trop puissants. Donc il faut des petits télescopes des astronomes amateurs, qui souvent ne sont pas du tout amateurs, qui sont vraiment pratiquement pour faire des courbes de lumière d'étoiles variables, pour découvrir des comètes, pour découvrir des astéroïdes. Les astéroïdes, c'est plus difficile, c'est moins brillant. Mais si, on a absolument besoin. Et puis je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas plus de coopération. J'ai essayé au Chili, ça marchait assez bien. En France, il n'y a pas beaucoup de collaboration entre les professionnels et les amateurs. Mais j'insiste, nous avons besoin, nous les professionnels, nous avons besoin des amateurs.
Et les amateurs, où vont-ils observer? Parce que vous avez expliqué le problème en France, c'est tout sombre et au ciel pur.
Ben oui, mais
alors,
avec un petit télescope de 50 cm, c'est déjà un télescope énorme.
Oui.
Eux, ils ont parfois des télescopes de 20 cm, parfois de 10. Vous le mettez dans la voiture, vous allez chercher un coin dans la campagne perdue. Vous avez maintenant on vous livre même des télescopes avec tout le logiciel qui vous permet de vous rentrer les coordonnées d'un astre.
Ça n'est des vocations.
Bah, j'espère bien, on a suffisamment d'astronomes professionnels, mais les astronomes amateurs, on en a besoin. Ça, on en a vraiment besoin, parce que maintenant, on peut plus observer les objets brillants depuis nos observatoires.
Alors, autre message auditeur, faut-il penser de ce qui a été rapporté sur la découverte de galaxies extrêmement lointaines par le James Webb? Ça nous amène, effectivement.
Oui, bah on y reviendra, j'espère.
Il propose d'en aborder un petit peu dans un secteur extrêmement fin où l'on supposait ne rien voir. Cela remet-il
en question
la théorie de génération des galaxies et la chronologie de la cosmogenèse?
Non, 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 non. Ce qui a été remis en cause, d'abord, il n'y a pas de région où on voit rien. Il y a des régions où on ne voyait rien parce qu'on n'observait pas dans l'infrarouge. Une des raisons pour laquelle le télescope le James Webb observe dans l'infrarouge, c'est justement pour ça, pour voir les poussières et voir à travers des régions. Quand on observe, par exemple, un truc qui est très connu, un objet qui est très très connu, les piliers de la création, quand on observe dans le visible, on voit des gros nuages, et on se demande pourquoi on appelle ça les piliers de la création. Quand on regarde dans l'infrarouge, on voit qu'à l'intérieur de ces nuages, il y a plein de petites étoiles en essence. Donc voilà, donc ça, il fallait l'infrarouge pour découvrir ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, une des surprises sur laquelle j'espère qu'on reviendra, enfin, on reviendra sur d'autres surprises du JWST, c'est que moi, quand j'étais à l'école, on m'enseignait que les galaxies, elles étaient toutes petites, puis elles se mangeaient les unes des autres, puis elles devenaient comme ça un peu plus grosses chaque fois. C'était corroboré par le fait que nous, on est en train d'avaler les nuages de Magellan. Et donc voilà. Et puis là, on s'aperçoit que non, qu'il y a des galaxies parmi les plus lointaines jamais observées qui sont déjà énormes. Donc, cette hiérarchisation des galaxies, elle ne fonctionne pas. Donc ça, c'est aussi un truc qui a été remis en cause. Et c'est vrai qu'on a observé des galaxies qui sont même des... Oui, enfin des supernovas aussi, mais des galaxies qui sont à 800 millions d'années, ce qui est les bébés, quoi.
Alors justement,
800 millions d'années après le Big Bang.
Oui, une auditrice qui vous envoie ce message. Selon la théorie de l'expansion de l'univers, les galaxies, en s'éloignant, occuperont le néant sans limite, autant que les galaxies spirales font des bébés. Comment peut-on définir le néant ?
Alors, je ne comprends pas très bien le rôle des galaxies spirales là-dedans et des bébés. Mais oui, il y a une théorie, mais c'est encore, on n'en sait rien finalement. Hein, on ne sait pas comment on va terminer l'univers. C'est sûr que s'il continue son expansion avec ou sans accélération de l'expansion, puisqu'on a découvert qu'il y a 7 milliards d'années, il y a eu une accélération de l'expansion. Si ça continue, ben, étant donné que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, il arrivera un moment où on ne les verra plus. Mmh. Hein, donc, dans quelques années, les astronomes ils seront au chômage, parce qu'il n'y aura plus de galaxies dans le ciel. Enfin, dans quelques années, c'est encore quelques milliards d'années.
Ça va.
Donc, on a le temps.
Vos disciples ne seront pas au chômage.
Voilà. Non, pour l'instant, on ne risque pas le chômage.
Un auditeur qui nous dit « On ne peut pas aller sur la Lune à cause des ceintures de Van Allen ».
Non, la preuve, c'est qu'on y est allé déjà.
Mais oui, qu'est-ce que
ça veut dire ? Les ceintures de Van Allen, elles sont beaucoup plus loin de la Lune.
Alors c'est peut-être Mars, non ?
Ah non, non.
Ou Vénus, que sais-je ? Une autre planète, peut-être ?
Ah ben, elles sont plus loin que Mars.
Elles sont où, ces ceintures de Van Allen ?
Elles sont pratiquement aux confins de...
Oui, d'accord. Donc, bon, qu'est-ce que c'est ?
Du système solaire. Hein,
qu'est-ce que c'est ?
C'est une protection magnétique, disons, pour dire les choses, vous m'avez dit d'aller rapidement. C'est une protection du système solaire.
Mais protège quoi ?
Les rayonnements gamma, entre autres, qui peuvent être très dangereux, les rayonnements qui peuvent naître d'une supernova qui explose pas loin, et qui protège pas forcément des astéroïdes, parce que ça, on n'est jamais à l'abri d'en recevoir un sur le coin de la figure.
Ça nous amène à la question du sens de l'univers, en quelque sorte, Patrice Bouchet. Parce que vous, il y a tout un chapitre que vous consacrez, pardonnez-moi, à la spiritualité.
Mm-hmm.
J'espère que nous aussi, nous aurons le temps de passer du temps sur ce chapitre, Lucam et Volupté. Vous dites, par exemple, le cosmos a été inventé pour que l'homme puisse rêver. A été inventé par qui ? C'est un peu le sens de ma question. Vous ajoutez, la recherche en astronomie est une espérance. Enfin bref, je reviens à la spiritualité, si vous voulez bien. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une dimension spirituelle particulière dans votre travail ? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose, justement, sur l'aspect spirituel ? Ce que vous écrivez aussi dans ce livre de souvenirs, Vecena au Chili, aux trois colonnes, aux éditions des trois colonnes, comme Jean-Paul II, vous ne mêlez pas science et religion. Vous ne mêlez pas, pardon, science et religion. Mais si ça se contredit.
Mais justement, c'est une
erreur. Vous m'avez posé cette question. Mais
c'est une erreur, je dirais, assez répandue, mais que je ne comprends pas, qui me surprend, mais qui m'horripile un peu, quoi, parce que je
vous
vois...
Vous vous horripilez.
Non, mais c'est pour
pas
ça.
C'est pas le but de l'entretien.
Non, c'est pas du tout ça. Mais... Parce que quand même, tout le monde sait qu'il y a de nombreux scientifiques qui affirment que Dieu a créé l'univers, non seulement l'univers, mais tous les différents processus qui sont à l'origine de l'évolution physique, biologique, etc. Et que ces processus ont conduit à la création des galaxies, de notre système solaire, finalement de la vie sur Terre. Je rappelle quand même que le fondateur théoricien du Big Bang, c'est un chanoine belge qui s'appelle l'abbé Georges Lemaître. Je rappelle que Einstein disait « je crois en Dieu », bon, avec des restrictions. Hein, lui, il croyait dans le Dieu de Spinoza, il dit « qui se révèle dans l'harmonie ». Je lis là une petite note que j'ai mise. « Qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe et non dans un Dieu qui se préoccupe des destins et des actions des êtres humains. » Donc c'est un petit peu restrictif, mais enfin... Il est, comme Platon et saint Thomas d'Aquin, pour lui, l'univers a une cause de son existence. Et c'est d'ailleurs repris par saint Augustin, je suis un adepte de saint Augustin, qui, dans ses... dans ses confessions, détaille toutes les interrogations qu'il a sur la Genèse. Entre parenthèses, il critique d'une manière extraordinaire l'astrologie, ça j'aime bien, mais il expose ses doutes sur théologiques et philosophiques sur la création du monde, mais il insiste surtout, et c'est le premier à faire ça, sur le temps, sur la non-existence du temps, qui pour moi est un problème qui me passionne, parce qu'en fait le temps n'existe pas. Le temps présent est quelque chose qui est éminemment personnel. Et le temps présent, il n'est présent que pour moi. Au moment où je vous parle, quand vous le son met un certain temps pour voyager, autant au moment où je vous parle, eh ben, quand vous recevez mes paroles, moi je suis dans un autre présent. Donc le présent, il n'est qu'à moi. À partir du moment où le futur, c'est ce qui va advenir du présent, ben, ça reste aussi personnel, et le passé, ben, c'est aussi personnel, puisque c'est ce qui est plus présent. Donc il y a un problème avec le temps. Là. D'ailleurs, il n'y a pas de mot qui signifie « temps » dans le vocabulaire chinois. Les Chinois ont compris ça. En Europe, la pensée européenne n'a pas compris ça. Et saint Augustin, pourtant, a beaucoup insisté. Il a écrit des lignes extraordinaires sur le temps. Il y avait récemment au petit théâtre de Montparnasse, là, de Besson, un spectacle justement sur les confessions de saint Augustin et le temps vu par saint Augustin qui était absolument passionnant. Bon, bref, je reviens à ça. Donc saint Augustin s'est beaucoup préoccupé de ça, il faut que ça aille vite, mais d'autres scientifiques aussi l'ont fait. Et je voudrais quand même, bon, je ne veux pas mentionner tous les scientifiques qui croient en Dieu, parce que tout le monde sait qu'il y en a pléthore, hein. Mais je voudrais, j'ai eu la chance d'assister au discours de Benoît XVI au Bernardin en septembre 2008, et il y a une phrase que j'ai notée et que je me permets de vous lire, puisque je ne veux pas faire d'erreur. C'est la foi qui incite la raison à sortir de son isolement et à prendre volontiers des risques pour tout ce qui est beau, bon et vrai. Et c'est là où c'est intéressant. La foi se fait ainsi l'avocat convaincu et convaincant de la raison. Et Benoît XVI, il savait de quoi il parlait, quoi. Et ça m'a... D'abord, bon, quand on écoutait, on avait l'impression qu'il s'adressait à chacun en particulier, c'était extraordinaire, mais ce qu'il disait était très profond. Et après l'avoir écouté, on n'a plus aucune raison pour un scientifique de ne pas avoir la foi. Hein. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre. Moi, on me donne, je suis scientifique. On me dit, voilà, au départ, il y a eu le Big Bang, une densité énorme, température énorme, etc. Il y a eu une soupe de plein de particules, tu vois. Au début, la soupe était tellement épaisse, tellement chaude, que les photons ne sortaient pas, il n'y avait pas de lumière après. Donc mon boulot, c'est de savoir ce qui s'est passé après. Comment se sont formées les galaxies, à l'intérieur des galaxies, comment se sont formées les étoiles. Si c'est l'inverse, si c'est les étoiles qui sont formées avant les galaxies, ou si c'est les galaxies qui sont formées après. Ce qu'il advient après, comment une étoile meurt, comment elle vit, ça c'est mon boulot. Mais mon boulot, c'est pas de savoir qui m'a mis la soupe initiale, d'où sont sortis les premiers photons. Ça c'est ça quelque chose.
Mais qui a mis la soupe, mais comment il a organisé les choses?
Ben voilà.
Parce que c'est toute une organisation. Oui.
Alors comment ça s'organise? Ça c'est non, c'est je dirais ça c'est plutôt notre boulot. Mais oui, enfin.
Mais, Patrick, il y a cette question, c'est un article formidable dans le Figaro, c'est lorsque je l'ai lu, que ça m'a donné l'idée de vous inviter et de lire votre livre. Et je recommande chaleureusement sa lecture savoureuse et très cultivante, VSNA au Chili, Patrice Boucher, l'édition des Trois Colonnes. Il y a eu un très bel article dans le Figaro, une pleine page, 11 mars 2026. Le titre, gros titre, c'est « Regarder le ciel amène à se poser des questions fondamentales ». Vous expliquez, quelqu'un a mis la soupe et puis après la soupe elle s'est organisée. Mais selon quelle loi, voulu par qui? Est-ce que l'observation justement du comment, votre travail justement, c'est s'observer comment la soupe est devenue ce qu'elle est actuellement avec une planète habitée, la Terre. En gros, c'est ça. Vous regardez tout ça. Mais est-ce que ça, ça vous a amené, cette observation, ça vous a amené à croire que derrière, il y a quelqu'un qui a voulu ça. Il y a un sens à la soupe et à l'organisation de l'évolution de cette soupe. Vous, Patrice Bouget, est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous a conduit à répondre à cette question, hein, se poser les questions fondamentales? J'imagine que dans ces questions fondamentales, il y a celle-là. Et est-ce que c'est un sujet que vous abordez aussi avec vos collègues qui font les mêmes observations que vous?
Avec certains, oui. Avec certains, oui. Certains, oui. Oui, pas. Mais en bon, je dirais, il faut être honnête, en général, les scientifiques se font fort d'être des rationalistes purs et durs, donc ils ne croient pas en Dieu. Je crois quand même que, par exemple, je vais prendre Leibniz. Leibniz, bon, il était tout, lui. Il était astronome, mathématicien, philosophe, juriste, enfin, il était tout. Et il a quand même montré dans ses écrits que quelque chose existe en soi. C'est-à-dire qu'on n'a besoin de rien d'autre pour exister. Et lui, il dit, bon, c'est Dieu. Et puis, il propose deux preuves de l'existence de Dieu. La première est ontologique. Donc, il dit, il est dans l'être de Dieu d'exister. Et la cosmologie, c'est l'ordre de l'univers. L'ordre de l'univers fait que, bon, ça peut pas... C'est un peu ce que disait Voltaire. Voltaire disait, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. C'est exactement la même chose. Quand vous regardez le ciel, vous êtes obligé de vous poser des questions, ça je l'ai déjà dit, et je le répéterai toujours. J'admire ceux qui ne se poseraient pas de questions, et je les envie un petit peu, parce que tout le monde connaît la phrase de Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, mais peu connaissent Fontenelle, qui a dit à peu près la même chose. Et ça, c'est au niveau de la méditation. Mais quand vous faites de la physique, je me dépêche, mais...
Prenez votre temps, c'est une question importante.
Je crois que c'est très important. Quand vous faites de la physique, personne ne va vous dire, ou vous demander même, est-ce que tu crois en la physique quantique? Bah non, parce que la physique quantique, elle a donné des preuves de son existence, etc. Je voudrais quand même rappeler aux auditeurs les 5 lois fondamentales de la physique quantique. La dualité. La dualité, bon, c'est la lumière, c'est soit une onde, soit une particule, selon ce qu'on étudie, selon comment on l'étudie, etc. La superposition des états, c'est le fameux chat de Schrödinger. On peut être à la fois mort et vivant. Par contre, si on veut savoir... si on veut le mesurer, alors là, il n'y a plus qu'un état, soit il est mort, soit il est vivant. Mais tant qu'on ne le mesure pas, il peut être les deux. Vous avez la quantification. Vous êtes en voiture, vous roulez à 20 km, tout d'un coup, vous accélérez. Et vous passez immédiatement à 140 km/h. Sans passer par les étapes intermédiaires. Vous ne passez pas par 50, 60, 70, jusqu'à 100 km/h. Non, vous allez directement... C'est ce que nous dit la physique quantique. Hein, c'est ce qu'on appelle la quantification. Vous avez surtout, pour moi, enfin, je trouve que c'est un peu plus fondamental, c'est l'intrication. Alors l'intrication, c'est que deux particules peuvent être intimement liées, même si elles sont à deux endroits différents de l'univers. Ça, c'est extraordinaire. Puis vous avez l'effet tunnel. Vous mettez un mur, les particules, elles passent à travers le mur comme s'il y avait un tunnel. Donc elles peuvent être d'un côté du tunnel et de l'autre. Alors vous comprenez bien que la Sainte Trinité, les mystères de l'Évangile, etc., c'est de la gnognotte à côté. Hein, il faut quand même regarder les choses en face. Oui. Et c'est la physique. Mais tout le monde est d'accord avec cette physique-là. Oui. Et par contre, on vous demande encore, est-ce que tu crois en Dieu? Alors, il faut quand même raison garder, quoi. Il y a quand même une différence. Pourquoi on accepterait de la physique ce qu'on n'accepterait pas de Saint-Augustin?
Et comment vous l'expliquez, ça?
Bah, il explique pas, c'est...
Comment, parce que vous expliquez le fait qu'on n'accepte pas de Saint-Augustin des choses qui paraissent moins abracadabrantes en quelque sorte que ce que vous avez observé.
Il y a peut-être une question, historique, il y a peut-être, je ne sais pas. Moi, honnêtement, enfin, je ne peux pas l'expliquer parce que je ne le comprends pas.
Ça ne s'explique pas.
Bah, c'est un peu ce que Spinoza disait. Spinoza disait que c'était ces questions-là et la finalité de l'univers, le dessin de l'univers n'était pas fait pour nos cerveaux actuels.
C'est ça. Donc le mystère demeure. Vous avez une phrase extraordinaire, je trouve, dans ce chapitre intitulé « Luxe, calme et volupté ». Vous parlez justement du temps de la création entre la soupe et toutes les évolutions. Où nous, on est un tout petit point de rien. Mais vous écrivez tout de même « L'univers savait que nous allions arriver ». Que voulez-vous dire ?
Alors, c'est pas moi qui l'ai dit.
Ah bon ?
Enfin, je le pense. Hein. Oui. Je pense, mais c'est un chercheur qui est à la recherche de Paris, qui s'appelle Brandon Carter, qui a concrétisé un petit peu, qui a regroupé un peu toutes les études qui avaient été faites par différents chercheurs. Il y a des lois fondamentales qui régissent l'univers tel qu'on le connaît, quoi. Des constantes fondamentales, la constante... Enfin, je ne vais pas faire pour la physique ici, ce n'est pas l'objet. Bref. Tous ces chercheurs ont montré que si on modifiait un petit chouïa, mais vraiment un chouïa de rien du tout, sur la vitesse d'expansion au moment du Big Bang, la température au moment où les photons sont sortis, enfin, vraiment un petit chouïa, hein, un chouïa, ben, il n'y avait plus aucune possibilité de vie. Donc, alors il y en a qui ont professé qu'il y avait des multivers, ce qu'ils appellent des multivers, des nombreux univers. Enfin, moi, ça, c'est, à mon avis, c'est de la science-fiction. Tant qu'on ne peut pas les voir, c'est... Enfin, de toute façon, c'est peut-être vrai, mais on n'en sait rien, et puis on ne les verra pas. Et puis d'autres qui disent, ben non, c'est... Et puis, il y a de plus en plus de scientifiques qui disent, ben non, c'est que... On est quand même dans un univers spécial. Le fait, et ça je voudrais que les auditeurs s'en souviennent, parce qu'il n'y a aucun scientifique qui veut dire le contraire, le fait même que nous soyons là, sur Terre, fait que l'univers ne pouvait pas être différent. Donc depuis Copernic, on a perdu le centre du monde, au point de vue géographique, mais on a gagné au point de vue signification. Donc on n'a plus de raison d'avoir peur. Et je dis dans le livre, là on n'a peut-être pas le temps d'expliquer, dire il y a des millions d'étoiles, pourquoi on serait les seuls dans l'univers, c'est idiot. Parce qu'il fallait, nous on vient d'arriver à l'échelle cosmique, et il fallait qu'il y ait tout ce temps, et avec l'expansion, il fallait que l'univers soit aussi énorme pour que nous on soit là.
Patrice Boucher, malheureusement nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle votre livre de souvenirs VSNA au Chili, aux éditions Les Trois Colonnes. J'encourage vraiment les auditeurs de Radio Courtoisie à lire ces souvenirs qui ont à la fois une description de la société chilienne à l'époque et puis une description de votre travail d'astrophysicien dans cet observatoire de la montagne et du désert chilien. Nous n'avons pas eu trop le temps d'évoquer votre vie dans la société chilienne, c'est très savoureux. Je renvoie les auditeurs à la lecture de ce livre de souvenirs. J'aimerais vous poser une dernière question, une petite minute pour répondre. Votre plus beau souvenir d'astronome, Patrice Boucher, quel est-il ?
Ah, c'est la supernova dans les grands nuages de Magellan.
C'est la CIA, vous avez découvert ça ?
Ah, pas découvert, on l'a vu. Enfin, ça a été découvert par plusieurs personnes en même temps.
D'accord.
Mais nous, on l'a vu de nos yeux, vu, alors que ça faisait 500 ans qu'on n'en voyait pas. Et ça a été extraordinaire.
Très bien. Patrice Boucher, un très grand merci.
Bien, ben, je vous en prie, merci à vous.
D'être venu ce soir en direct. Merci aussi pour ce beau livre, VSNA au Chili, aux éditions Trois Colonnes. Merci à Stéphane, à la technique. Merci à Laurent qui a pris vos messages, chers auditeurs. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien. Très bon dimanche soir à vous tous.
venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 3 mai 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.